France Culture.
L'heure du journal de la rédaction. Bonsoir.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Il triomphe, Donald Trump, après l'opération américaine la nuit dernière au Venezuela, au cours de laquelle le président Nicolas Maduro a été capturé et exfiltré de son pays. Un président vénézuélien accusé par les États-Unis d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic qui fait désormais route vers New York pour y être jugé. Dans les rues de Caracas, la population est dans l'expectative. Après une nuit de panique au son des bombardements, l'opposition vénézuélienne, elle se dit prête à prendre le pouvoir et de nombreux dirigeants internationaux condamnent cette attaque américaine qui porte atteinte au droit international. Enfin, en France, nous reviendrons sur un record, celui de la surpopulation carcérale. Le taux d'occupation dans les prisons françaises dépasse les 135% du jamais vu. Des frappes précises sur des complexes militaires, une opération éclair et un président renversé. C'est donc ce qui s'est passé au Venezuela la nuit dernière, où les États-Unis ont mené une attaque de grande envergure. C'est rapidement félicité Donald Trump, le président américain qui menaçait depuis plusieurs mois Nicolas Maduro, qu'il accuse d'être à la tête d'un réseau de narcotrafic, a donc ordonné une opération des forces spéciales américaines, au cours de laquelle le président Maduro et son épouse ont été capturés, puis exfiltrés. Ils vont être conduits à New York, où ils sont inculpés pour narcoterrorisme. Ils feront face à la justice américaine, prévient la ministre américaine de la Justice. Gwendal Navila, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Gwendal, Donald Trump détaille en ce moment même le déroulé, l'objectif de cette opération lors d'une conférence de presse depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride.
Oui, depuis une vingtaine de minutes, Donald Trump décrit par le menu comment s'est passé cet assaut qu'il qualifie de spectaculaire, débuté à l'aube très tôt ce matin à Caracas et qui a visé le nord du pays ainsi que la capitale vénézuélienne. Un assaut qui a mis hors de fonctionnement la défense vénézuélienne en un temps record. Tout cela, dit-il, pour traduire en justice Nicolas Maduro. Donald Trump qui précise qu'aucun blessé n'est à déplorer chez les soldats américains et que de nombreux hélicoptères, de nombreux avions ont survolé pendant plusieurs heures la capitale. Donald Trump qui annonce que ce sont désormais les États-Unis qui vont diriger le Venezuela tant qu'il ne peut pas y avoir de transition transparente et sûre, comprenez la tenue d'élections pour que les Vénézuéliens puissent élire leur futur président. Président. Donald Trump qui revient aussi par le détail sur la question de l'industrie pétrolière, un sujet très important pour lui. L'industrie pétrolière ne fonctionnait pas et des compagnies américaines vont venir reprendre en main toutes les infrastructures et faire des bénéfices pour les Vénézuéliens, pour améliorer la vie des Vénézuéliens. Il évoque un partenariat entre le Venezuela et les États-Unis. Donald Trump qui, comme vous l'évoquiez, affirme que le couple Maduro est en ce moment à bord d'un navire de la marine qui se dirige vers New York, car il s'agit désormais aussi d'une affaire judiciaire traitée par un tribunal fédéral de la ville. La ministre de la Justice, Pam Bondi, indique que Nicolas Maduro, sa femme, leur fils et plusieurs autres officiels vénézuéliens sont poursuivis pour narcoterrorisme et soutien à des cartels de drogue. Une procédure débutée il y a quelques mois en secret qui prendra des mois, si ce n'est des années, à aboutir dans les prochains temps.
Gwendal Navila en direct des États-Unis pour France Culture. Alors à Caracas et dans les environs de la capitale vénézuélienne, eh bien les habitants ont été réveillés en pleine nuit par des détonations et des incendies. Entre sidération et panique, certains ont pris la fuite, notamment à Fuerteventura, où se trouve le plus important complexe militaire du pays. Et dans les rues de la capitale, eh bien seuls quelques rares partisans du gouvernement se sont rassemblés. Alice Campagnol.
Plaza Bolívar, en plein centre de Caracas. Autour, les ministères, l'Assemblée nationale et à quelques centaines de mètres, le palais présidentiel. Le point de rassemblement des partisans du gouvernement. Mais aujourd'hui, malgré l'appel à mobilisation, la place reste désespérément vide. Mais José est venu tout de même.
Je voudrais que le peuple s'unisse et que les gens descendent dans la rue pour défendre notre patrie, pas Nicolas Maduro, mais défendre notre pays que les impérialistes veulent piller. Tout ce qu'ils veulent, c'est voler notre pétrole, voler nos richesses. C'est ça qu'ils veulent, rien de plus.
On estime qu'ils sont entre 20 et 30% dans le pays à soutenir Nicolas Maduro. Pourtant, les rues de la capitale restent désertes. Autour du palais présidentiel, cependant, des membres de groupes paramilitaires pro-gouvernement font des rondes armées. Pour impressionner la population, c'est l'incertitude qui règne aujourd'hui à Caracas.
Alice Campagnol au Venezuela, où après 13 années de pouvoir, l'autoritaire Nicolas Maduro laisse donc un Venezuela empêtré dans une crise économique où les mouvements d'opposition ont été fortement réprimés. Mais l'heure de liberté est arrivée, a lancé la chef de l'opposition, Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix 2025, qui estime que González Urrutia, candidat de l'opposition à la présidentielle 2024, doit assumer désormais la présidence du pays immédiatement. Le secrétaire général de l'ONU lui s'inquiète que le droit international n'ait pas été respecté. Cette opération américaine constitue un dangereux précédent, déplore Antonio Guterres et appelle tous les acteurs au Venezuela à engager un dialogue inclusif dans le plein respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Bonsoir Valentin Grille.
Bonsoir Julie.
La plupart des dirigeants internationaux ont aussi rappelé leur attachement au droit international, remettant en question la légalité de l'opération américaine.
Oui, et celui qui l'exprime peut-être le plus clairement, c'est Keir Starmer, le Premier ministre britannique.
Je tiens d'abord à établir les faits. Je souhaite m'entretenir avec le président Trump et avec nos alliés. Je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que nous n'avons pas été impliqués. Et comme vous le savez, je répète sans cesse et je suis convaincu que nous devons tous respecter le droit international.
Sur le continent, la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, le martèle en toutes circonstances. Les principes du droit international et de la Charte des Nations Unies doivent être respectés. Elle appelle à la retenue. Et parmi les 27, c'est l'Espagne qui pourrait désormais jouer un rôle diplomatique, car Madrid a offert ses services pour une médiation. Restent ensuite les craintes latino-américaines, celles du président Lula au Brésil, qui dénonce une première étape vers un monde de violence, qui rappelle les pires moments de l'ingérence étrangère en Amérique latine.
Et Valentin, parmi les pays qui s'en réfèrent au droit, il y a aussi les alliés historiques du régime vénézuélien.
Oui, la Chine et la Russie. Pékin condamne fermement l'action américaine, un recours flagrant à la force et un comportement hégémonique qui viole gravement le droit international. Quand Moscou estime que Nicolas Maduro a été élu légalement en exhortant à sa libération. Enfin, il faut mentionner les voix discordantes. Israël qui salue l'opération de Donald Trump, qualifié de leader du monde libre, mais aussi l'Italie et Giorgia Meloni qui brisent l'unité européenne et reprend les arguments de Washington. Elle qualifie de légitime et défensive l'intervention militaire contre une entité alimentant le trafic de drogue.
Valentin Grille. En France, enfin, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a condamné la capture du président vénézuélien et rappelle qu'aucune solution politique durable ne saurait être imposée de l'extérieur. Alors si Emmanuel Macron reste pour l'heure muet, les responsables politiques de gauche ont été les premiers à réagir dès ce matin. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, appelle à ce que cet acte soit unanimement condamné, s'inquiétant d'un feu vert donné à tous les autocrates du monde. Jean-Luc Mélenchon dénonce un enlèvement odieux et une intervention militaire d'un autre âge. La France insoumise a d'ailleurs appelé à un rassemblement place de la République à 18h. Tandis qu'à l'autre bout de l'échiquier, eh bien le RN se montre plus nuancé. Si personne ne regrettera le régime rouge de Nicolas Maduro, dit Jordan Bardella, le président du Rassemblement national appelle au respect du droit international et de la souveraineté des États. Trois jours après l'incendie meurtrier d'un bar à Crans-Montana en Suisse, une instruction pénale contre les gérants français du bar a été ouverte par les autorités suisses. Ils sont prévenus d'homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence, précise dans un communiqué la police du canton du Valais. Alors que l'identification de 40 victimes est toujours en cours, les corps de 4 Suisses âgés de 16 à 21 ans ont été identifiés et remis à leur famille aujourd'hui. Parmi les 119 blessés figurent 16 Français, précise également le Quai d'Orsay en France. 9 ne sont toujours pas localisés. Les établissements pénitentiaires débordent. Si la surpopulation carcérale est chronique, elle franchit un nouveau record, d'après les chiffres révélés par le ministère de la Justice le 1er janvier. Plus de 86 000 personnes étaient incarcérées au 1er décembre 2025. Le taux d'occupation dans les prisons françaises atteint donc 135,6%. C'est 6 points de plus que l'année dernière. Une augmentation qui alarme le secteur carcéral. Écoutez Mathieu Quinquens, président de la section française de l'Observatoire international des prisons, au micro d'Edouard Barbet.
On s'inquiète parce que derrière ces chiffres, en réalité, ce sont autant de vies humaines et autant de droits fondamentaux qui sont niés par une surpopulation déplorable dans les établissements pénitentiaires. C'est-à-dire que dans une cellule de 9 mètres carrés, pensée pour une personne, viendront s'entasser 2 ou 3 personnes détenues. Cette augmentation de la population carcérale, elle s'inscrit dans un durcissement des politiques pénales, avec un gouvernement qui ne mise en termes de politique pénale que sur l'incarcération. Nous, on demande au gouvernement et à l'institution judiciaire de prendre conscience de l'urgence de mesures très simples qui consistent à réduire le nombre de personnes incarcérées, soit en limitant les entrées en détention, soit en favorisant les sorties anticipées dans le cadre d'aménagement de peine. De nombreux pays voient leur population carcérale décroître, on peut notamment penser à l'Allemagne. Et donc, on a la preuve par l'exemple que d'autres modèles peuvent être mis en place et qu'il faut sortir de ce schéma très simpliste et contre-productif d'une prison comme élément répressif central.
Mathieu Quinquis, président de la section française de l'Observatoire international des prisons. La météo de demain avec le froid qui s'intensifie. Les brouillards givrants seront nombreux au réveil, mais de belles éclaircies sont attendues des pays de la Loire au Hauts-de-France. Les minimales affichent moins 3 à moins 8 à moins 3 degrés sur la plupart des régions. C'est la fin de ce journal préparé avec Antoine Boucher, Alex Dang à la technique.